Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Des violents combats au poste depuis ce vendredi matin, les FARDC au M23 pour le contrôle de la cité de Kanyabayonga. Les forces loyalistes ont lancé une offensive pour reprendre le contrôle de Mirangi, Kihala et Lusili, utilisés comme base arrière depuis plus d'une semaine par le M23. De plus en plus de médecins qui prennent en charge des enfants à Kinshasa lancent l'appel aux parents et autres tuteurs à éviter de leur donner trop de sucreries. Ces médecins disent avoir constaté depuis plusieurs mois des cas de diabète chez de nombreux enfants ici dans la capitale. Notre invité, c'est l'abbaye enceinte Irakoze du diocèse de Tiangungu au Rwanda. Il participe à Bukavu au forum sur la conservation de l'environnement, un forum organisé par la commission diocésaine justice et paix et archidiocèse de Bukavu. Bonjour à tous. Au nord Kivu, de violents combats opposent depuis ce vendredi les FARDC aux rebelles du M23 pour le contrôle de la cité de Kanyabayonga. Tôt ce matin, l'armée a lancé une offensive pour reprendre le contrôle de Mirangi, Kihala et Lusuli. Ils ont présenté par des sources militaires comme des bases arrières utilisées depuis plus d'une semaine par le M23 dans sa volonté d'occuper Kanyabayonga. Ces villages qui ouvrent la voie vers Kikuku, Nyanza, Lemutanda et Kishishe dans le territoire de Rutshuru sont situés à plus ou moins 30 km de Kanyabayonga, qui reste toujours sous le contrôle des FARDC. L'armée cherche ainsi à contrôler Mirangi, Kihala et Lusuli pour, affirme des sources militaires, couper tout appui aux troupes rebelles positionnées à une dizaine de kilomètres de cette commune rurale stratégique du territoire de Lubero. Toujours au nord Kivu, au moins 35 civils ont été tués en 3 jours dans des attaques attribuées aux rebelles des ADF dans des villages situés à l'ouest du territoire de Beni au nord Kivu. Une situation qui a provoqué le déplacement de la population vers des milieux jugés sécurisés. La société civile plaide pour des opérations militaires d'envergure pour sécuriser la population dans la région. Marc Marofimbo pour plus de précisions.
Jeudi après-midi, 7 civils ont été tués et 2 cases incendiées par les ADF à Makodou, un village du secteur de Benimbao. La société civile rapporte que l'armée est intervenue pour limiter les dégâts. Avant cette attaque, le mardi 4 juin, 16 civils ont été tués par les ADF à Massaou, dans la localité de Bapakombe Pendekali. Une dizaine d'autres civils ont été pris en otage, des commerces ainsi que des officines pharmaceutiques pillées par les assaillants, rapportent des sources locales. Tôt ce jeudi matin, 5 nouveaux corps de civils ont été découverts dans les villages voisins de Mounundi et 7 autres sur la rivière Loulo. Ces derniers ont été ligotés avant d'être tués. Au total, ce sont 35 civils qui ont été tués en 3 jours dans des attaques attribuées aux rebelles des ADF dans le territoire de Beni. La société civile du secteur de Benimbao dit être exaspérée par cette situation. Elle demande à l'armée de lancer de toute urgence des opérations pour sécuriser la population dans la région. Nous n'avons pas eu la réaction des FARDC. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Pendant ce temps, en Ituri, c'est environ 4000 déplacés et retournés, victimes des atrocités des rebelles ADF, qui bénéficient de soins gratuits pendant un mois dans les aires de santé de Robingo, Tondoli, Bitima et Boga, au sud du territoire d'Irumu. Ils ont également reçu des articles ménagers essentiels dans le cadre de projets Réponse rapide de l'UNICEF, exécuté par le programme de promotion des soins de santé primaire. Selon cette organisation, l'objectif est de lutter contre la mortalité de cette population paupérisée par la guerre et améliorer ainsi leurs conditions de vie. Isaac Raymond.
La persistance de l'insécurité due aux atrocités des ADF a entraîné le déplacement d'environ 4000 personnes dans les chefferies de Banyarichabi et Baimaboga. Ces dernières vivent dans des conditions difficiles à cause de l'inaccessibilité aux champs qui sont occupés par ces hommes armés, ce qui a réduit le pouvoir d'achat de la population pour se faire soigner, constate l'ONG PPCSP. Conséquence, plusieurs cas de mortalité sont enregistrés dus à la malnutrition. Face à ces défis, l'ONG PPCSP a lancé depuis jeudi le projet d'administration des soins gratuits pendant un mois à se déplacer et d'autres retournés dans les aires de santé de Robingo, de Tondoli, Bitima et Boga. Les malades graves sont référés à l'hôpital général de Boga. Ces sinistrés ont également reçu des articles ménagers essentiels composés des ustensiles de cuisine, des couvertures, des pagnes, des bâches et des kits d'hygiène pour les femmes en âge de procréation. Son chargé de communication indique que l'objectif de cette action humanitaire est de sauver des vies humaines en détresse. Pour rappel, ces déplacés étaient dépouillés de tout et plusieurs structures sanitaires incendiés et saccagés par des ADF dans cette entité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Parlons soins de santé primaire avec cet appel que lancent de plus en plus des médecins qui prennent en charge des enfants à Kinshasa. Ils appellent les parents et autres tuteurs à veiller à l'hygiène de vie des tout-petits en leur évitant notamment trop des sucreries. Ils sont nombreux, ces enfants, qui sont suivis aujourd'hui pour des cas de diabète depuis quelques mois, ce qui pousse certains centres hospitaliers actuellement à faire systématiquement des tests de glycémie pour des enfants présentant certains signes pour leur éviter des complications à l'avenir. Miradi Mfwengi et Babel Pongo Masimango, reportage.
Parmi les structures qui prennent en charge des enfants diabétiques, on compte le centre hospitalier Boyambi de l'Armée du Salut dans la commune de Kinshasa. Ici, on suit plus de 200 enfants. Docteur Didier Coladio, un des médecins soignants.
Nous suivons environ 200-250 enfants qui sont sous traitement.
À la base, plusieurs facteurs, l'hérédité, oui, dit-il, mais aussi l'alimentation et le mode de vie. D'où son appel aux parents à éviter trop de sucreries aux enfants et à les pousser à bouger.
Des conflits antigènes, anticorps dans notre organisme peuvent influencer que le diabète puisse se développer plus tard. Il y a beaucoup de facteurs et même des stress. Néanmoins, dans l'alimentation, il nous faudra corriger que ces aliments qui prennent beaucoup trop de sucre puissent être de plus en plus mis à l'écart.
L'alerte donnée par des médecins de ce centre a amené d'autres structures comme l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe à procéder systématiquement depuis quelques mois aux tests de glycémie pour certains cas. Docteur Catherine Akele, son médecin directeur.
C'est comme ça que nous nous sommes dit, on va faire un peu plus attention aux enfants qui viennent avec des maladies graves ou en coma. Et c'est là qu'on a commencé à trouver qu'il y avait des enfants qui avaient des taux de sucre élevés.
Parmi les signes du diabète chez l'enfant, Dr Didier Coladio cite ceci.
Un enfant qui n'avait pas l'habitude, par exemple, de faire pipi au lit, il commence à faire pipi au lit. L'enfant commence à maigrir, à réclamer de l'eau à tout moment. Il y a la faiblesse, manque de concentration, tout ça. Il est tout le temps fatigué.
Pour ce qui est du diabète en RDC, le programme national de lutte dit se battre pour avoir de quoi financer des études pour des statistiques globaux. Jusque-là, il n'existe que des données parcellaires.
Dans la province du Maniema, 21 nouveaux médecins sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. Ils ont prêté serment hier jeudi à Kindu. Le président de l'Ordre des médecins à cette occasion exhorte les autorités politico-administratives à tenir compte des qualités des médecins lors des affectations. Dr Charles Omesumbu-Chako, président de l'Ordre des médecins, en parle au micro de Florence Kizalunga.
Aux autorités, nous rappelons juste l'article 7 de notre code de déontologie qui stipule que nul ne peut exercer la médecine s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Ce sont ces gens-là pour qui nous venons de recevoir le serment aujourd'hui qui sont habilités à être affectés et d'autres qui les ont précédés dans l'inscription au tableau de l'ordre des médecins. Il n'est donc pas question que l'on puisse se retrouver avec des gens qui n'ont jamais été inscrits au tableau de l'ordre qui soient affectés. Et pour ça, nous savons que la politique intervient à tous les niveaux, mais là, c'est un domaine réglementaire, ce sont des normes qui doivent être suivies. Ce sont ces gens ici qui doivent être affectés. Ils sont maintenant dans les droits d'exercer la médecine. C'est eux qui doivent recevoir de l'autorité, des arrêtés. Nous demandons aux autorités de les affecter. Bien sûr, il y a une procédure. C'est vrai, la médecine, c'est une science, c'est un art aussi. Parce que même pour exercer les trainings, ils doivent avoir des numéros, ils doivent être inscrits comme médecins de l'État congolais. Ils sont dans les droits.
Dans la ville d'Uvira au sud Kivu, la crise persiste entre la Direction générale des impôts DGI et la Fédération des entreprises du Congo FEC. La rencontre de rapprochement chapeautée par le maire d'Uvira et tous les membres du Conseil de sécurité mercredi dernier n'a pas permis aux partis en conflit autour des taxes TVA d'harmoniser leurs vues. Jean Kassami.
La délégation de la DGI à cette rencontre convoquée par le maire d'Uvira a promis de faire rapport à sa hiérarchie de Kinshasa. Les opérateurs économiques décident de maintenir leur position, comme l'indique son président Zembe Zembe Jean-Pierre.
Les commerçants reprennent leur travail et la cessation de tous les impôts de la DGI, notamment IBP, IPR, TVA, ICA, nous avons refusé de tout payer jusqu'à ce que nous aurions la réponse à nos revendications. Et nous avions interdit que les membres de la DGI ne passent plus dans nos magasins, nos entreprises, en attendant que la régularisation soit faite par la hiérarchie.
La DGI Uvira considère cette position des opérateurs économiques comme une rébellion fiscale. Caline de Jean-Marie Vianney, chef de centre, indique que les scellés de quelques maisons de commerce ainsi que les gels des comptes des insolvables sont des actes légaux.
Le recouvrement forcé est déclenché. Soit sceller la boutique, soit geler le compte qui est alimenté pour que l'on puisse récupérer les fonds. On a gelé deux comptes et le président il a instrumentalisé les autres opérateurs économiques.
Cette crise entre la FEC et la DGI Uvira entre à son cinquième jour ce vendredi. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Il faut un engagement collectif pour la salubrité publique. L'appel a été lancé mercredi à l'Institut supérieur de Mbanzangungu par le professeur Alexis Kimbembi. C'était au cours d'une conférence débat organisée en marge de la Journée internationale de l'environnement, célébrée le 5 juin. Nana Plurich Mambou.
Le professeur Alexis Kimbembi s'est appesanti sur l'approche « Un esprit sain dans un environnement sain, un engagement collectif pour la salubrité publique ». Dans son allocution, un accent particulier a été mis sur les déchets biodégradables et non biodégradables. S'agissant des déchets plastiques, c'est-à-dire non biodégradables, l'orateur du jour note que les déchets de cette nature peuvent être transformés en pavés. Ce qui, selon lui, constitue une opportunité entrepreneuriale et peut créer des richesses. À propos des déchets biodégradables, ils peuvent être récupérés et transformés en une solution appelée biofertilisant. C'est une liquide utilisée pour arroser les légumes avec des résultats positifs pour produire l'emploi des engrais chimiques. Au terme de la conférence, une marche de salubrité a été initiée dans l'enceinte de l'ISP aux hommes des étudiants, à l'école d'application EDAP, secondaire comme primaire, au cours de laquelle des clubs de volontaires engagés dans la protection de l'environnement ont ramassé des déchets pour assainir l'environnement. Signalons que la Journée mondiale de l'environnement est une occasion de mener des actions concrètes visant à apporter des changements positifs et créer un monde plus durable. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, les familles de ceux qui ont perdu la vie ou ont été injustement emprisonnés au cours des manifestations de l'opposition ces trois dernières années réclament justice. Constitué en collectif dénommé le collectif des victimes du régime du président Macky Sall, ces familles demandent aux autorités judiciaires d'émettre un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président pour qu'il réponde de ses actes devant la justice.
L'invité.
Notre invité, c'est l'abbaye enceinte Irakoze du diocèse de Tiangungu au Rwanda. Jean Kassami l'a croisé à Bukavu dans un forum sur la conservation de l'environnement, un forum organisé par la commission diocésaine Justice et Paix, archidiocèse de Bukavu. Prêtre, directeur de la commission diocésaine Justice et Paix et de la Caritas du diocèse de Tiangungu, enceinte Irakoze soutient que la communion entre l'Église catholique du Rwanda et celle de la RDC est un pont vers la paix dans la région des Grands Lacs. Suivez.
Monsieur l'abbé Yacinthe Irakoze, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présentement à Bukavu, pour quelle fin?
Nous sommes ici pour le lancement d'un projet que nous implémentons en consortium avec la CDJP Bukavu, qui est le projet de la conservation de l'environnement, la protection de l'environnement. Alors, dans ce projet, nous avons comme objectif mettre en pratique les conseils du pape François que nous trouvons dans sa lettre inscrite Laudato Si, qui est la lettre sur la protection de la maison commune qui est notre terre. Maintenant, la question écologique est une question mondiale dans le monde entier. Tout le monde est interpellé à protéger l'environnement, comme ici à Bukavu, comme chez nous aussi à Tiangugu. Il y a des atteintes humaines à l'environnement.
Qu'est-ce que l'Église devrait faire de part et d'autre pour la meilleure conservation de l'environnement qui est notre terre commune?
Alors, chez nous au Rwanda, comme ici à Bukavu, même dans le monde entier, la première chose que l'Église fait, c'est informer les consciences, c'est éveiller les consciences, pour que tout le monde se rende compte de cette crise écologique que nous sommes en train de vivre. Alors après, il faut que nous tous, nous ayons ce souci de l'environnement et nous mettons en pratique les conseils et les stratégies que les États, aussi que des personnes privées, prennent en faveur de la protection de l'environnement.
les relations entre l'église de Tiangugu au Rwanda et l'église de la RDC ici au sud Kivu à Bukavu sont au bon fixe, pendant que au niveau de la politique entre le Rwanda et la RDC, les relations sont tendues. Qu'est-ce que l'église fait pour dépasser ces clivages politiques, ne pas se laisser emporter ni influencer par les considérations politiciennes de part et d'autre?
Vu ces considérations politiques de part et d'autre, ces considérations politico-diplomatiques entre les deux pays, l'Église cherche à être un pont, le pont qui unit les deux peuples, le peuple rwandais et le peuple congolais. En fait, nous tous, nous sommes un seul peuple. Nous subissons les mêmes conséquences de la crise écologique et aussi nous jouissons le même bien de l'écologie. Alors, l'Église cherche à être un pont pour les deux peuples.
Vous sentez que ce pont-là est vraiment solide?
Moi, je dirais que le pont est solide. Nous sommes ici, plus de 60 personnes, pour ce projet en faveur de la protection de l'environnement. Nous avons traversé, nous avons donné la conférence ici, et les gens d'ici, ils nous écoutent et ils sont très contents. Je vois que au-delà de la crise politico-diplomatique que nous vivons aujourd'hui, vraiment, les deux peuples se sentent, le même peuple se sentent unis. S'il y a des événements qui nous unissent, qui nous font des rencontres, on voit que vraiment c'est le même peuple. Et l'Église joue un rôle très, très important, très visible.
L'Église au milieu du village, c'est bien cela ce que vous démontrez. De retour au sud Kivu, quel message vous allez ramener à l'Église du Rwanda?
À l'église du Rwanda, le message que on va amener, que nous allons amener de retour, c'est que nous sommes appelés à l'unité. Nous sommes appelés à la fraternité et à la communion. Sur la communion, sur la fraternité, sauvera son monde.
Donc, avec cette fraternité, vous avez l'espoir que les relations diplomatiques qui sont en veille aujourd'hui vont certainement s'améliorer dans l'avenir?
Moi, j'y crois. Moi, je crois toujours à la capacité de l'homme à changer. Capacité à changer pour le bien, pour la communion, pour la fraternité. Puisque le peuple des Congolais d'ici à Bukavu et de Tiangugu témoigne que nous sommes des frères. Il y a des Rwandais qui viennent ici pour le commerce, il y a des Congolais qui viennent chez nous pour le commerce. D'après tout, on voit que nous sommes un seul peuple.
Monsieur l'abbé, nous vous disons merci et bon séjour à Bukavu.
Merci beaucoup. Je vous souhaite un beau travail.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi dans une mise en onde de Polydor Basunga, le tout coordonné par Jacques-Yves Molima. Restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi, dont tout de suite l'émission Okapi Sport avec Kanish Mukongo.